explorer de nouveaux mondes étranges.
Je sentais souffler sur ma nuque le vent fou de l'aventure.
Eh bien moi j'y vais, je plonge.
C'est une course devenue mythique. On la surnomme l'Everest des mers. Le Vendée Globe est à ce jour la plus grande course à la voile autour du monde, en solitaire, sans escale et sans assistance. Nous sommes nombreux, tous les 4 ans, à suivre impressionnés, émus, inquiets, ces hommes et ces femmes qui prennent la mer seuls pour plusieurs mois, seuls face aux éléments, seuls face à eux-mêmes, seuls loin de tout. Ils font déferler les embruns et souffler un vent d'aventure dans nos quotidiens de terriens. On les admire, mais on ne les envie pas forcément. Il faut être un peu extraterrestre pour se lancer dans un tel corps à corps avec les océans. Clarisse Kremer fait partie de ces extraterrestres. Elle a déboulé dans le monde de la voile, telle une comète que l'on n'avait pas vue venir. Première mini-transat à 27 ans, en 2017. 3 ans plus tard, elle prend le départ du Vendée Globe et termine la course 12e en un peu plus de 87 jours, établissant au passage le record du meilleur temps féminin. Loin d'être rassasiée, la navigatrice est repartie pour un tour. Elle est arrivée 11e du dernier Vendée Globe. Qu'est-ce qui a conduit cette jeune francilienne à prendre le large? Comment se prépare-t-on pour l'Everest des mers? Et comment ça se passe une fois embarquée dans l'aventure? Clarisse Kremer raconte son parcours, ses moments d'exaltation et de doute en mer dans une bande dessinée intitulée « J'y vais, mais j'ai peur » aux éditions Delcourt Ancrage avec les dessins de Maude Bénézit. Cet après-midi, Clarisse Kremer nous embarque avec elle dans ses aventures salées. Et en fin d'émission, nous retrouverons Éric Birloise qui nous emmènera cette semaine sur les routes de l'aubergine. Emma Bouvier a préparé cette émission, David Leprince la réalise avec à la technique aujourd'hui Loïs Moreau. Soyez les bienvenus dans notre bivouac.
France Inter. Le temps d'un bivouac. Daniel Fievé.
Pas grand chose d'autre que de la joie. C'est trop chouette de retrouver tout le monde. J'ai déjà perdu ma voix. C'est trop chouette d'avoir fini ce Vendée Globe. C'était pas facile, mais c'était une trop belle aventure. Donc je suis essentiellement joyeuse et trop fière de mon équipe et de tout le boulot qu'on a fait. Et trop contente de retrouver ma petite famille, mes amis, tout ça. Et de voir tout cet accueil à La Rochelle. C'était pas vraiment le port qui était prévu, mais je suis pas la seule à être dans le mauvais port.
Bonjour Clarisse Kremer.
Bonjour Daniel Fievé.
Nous étions donc le 27 janvier 2025, hein, il y a quelques mois, après avoir franchi la ligne d'arrivée du Vendée Globe. Vous avez fini 11e de ce deuxième tour du monde pour vous. Hein, vous l'avez bouclé en 77 jours, 15h et 34 minutes. Vous vous souvenez, là on vous entend un peu presque prise par l'émotion, vous vous souvenez, vous, rétrospectivement, dans quel état émotionnel vous êtes au moment où vous arrivez? Alors c'est dans le port de La Rochelle en plus, hein, c'est pas au Sable d'Olonne parce que vous venez d'essuyer une tempête.
Ouais, c'est toujours... du coup, j'ai eu la chance de vivre 2 arrivées de Vendée Globe, ce qui est quand même un grand privilège. Et je crois qu'à chaque fois, alors bien sûr, il y a de la joie, de l'excitation et tout ça, mais il y a surtout une sensation de soulagement, en fait. C'est tellement intense, un Vendée Globe, on est tellement sur le qui-vive, il y a tellement de choses qui peuvent mal se passer que quand tout ça, ça s'arrête, on sent que ce côté un peu proie au milieu d'un monde de prédateurs disparaît et on peut enfin être soulagé.
Ah oui, vous aviez ce sentiment d'être une proie dans un monde de prédateurs?
Oui, alors c'est une image que j'utilise, mais il y a tellement de problèmes techniques, mécaniques, la météo peut être tellement instable. Et puis moi, c'est vrai que sur mon dernier Vendée Globe, avec cette tempête, la Herminia, sur les derniers jours, ça a été intense jusqu'à la dernière seconde. J'ai eu 60 nœuds dans la dernière nuit.
Ouais.
Et il y a ce côté un peu retour aux sources, presque animal, on se sent en danger. Et ça, c'est quelque chose qui procure un stress, une angoisse un peu permanente.
Et cette reconnexion tout de même, cette reconnexion, elle n'est pas un peu brutale? Reconnexion avec le monde des terriens, tout d'un coup il y a une foule, aussi bien des proches que des gens que vous ne connaissez pas, tous sont très enthousiastes, ils vous ont suivi pendant des semaines, voire des mois en mer, et vous, vous sortez d'une solitude extrême avec tout d'un coup ce monde qui vous tombe dessus. C'est violent, c'est agréable ou c'est un peu dur aussi?
c'est un mélange de tout ça. Moi, j'aime bien parler des nuances dans la vie, de la complexité des émotions. Et donc, c'est exactement un mélange de tout ça. On entend, par exemple, à ma voix que j'ai la voix enrouée. Ouais. Je ne l'avais pas juste avant d'arriver. En fait, c'est juste le fait de parler avec des gens. Ouais. Je n'ai pas vraiment parlé depuis 2 mois et demi, même si je parle un peu à ma caméra et parfois au téléphone avec mon équipe. Ouais. Là, ça fait quelques heures que j'ai commencé à parler avec les gens. Donc, ça fait partie des détails qui sont quand même amusants. Et ouais, c'est très perturbant. Mon premier Vendée Globe, je le disais tout le temps, c'est absurde. Ouais. C'est tellement improbable. Et puis en plus, il y a un accueil qui est quand même assez joyeux, assez festif. Et on n'a pas vraiment l'impression que tout ça nous est dirigé. Ouais. Mais c'est des moments de vie qui sont un peu hors du temps. Mais c'est quand même assez rigolo, globalement.
Il faut du temps pour récupérer après une telle épreuve.
On aime bien dire dans le monde de la course au large qu'il faut, en particulier pour les courses en solitaire, il faut le double du temps passé en mer pour récupérer. Donc là, j'ai passé 2 mois et demi. Ouais. Normalement, il faudrait 5 mois. Ouais. Il faut du temps. Parce qu'au-delà de la fatigue physique, parce qu'on dort très peu, il y a la fatigue émotionnelle, en fait. J'ai parlé du stress, de l'angoisse permanente. Bah, en fait, on est dans la compétition, dans l'adrénaline. Et c'est comme si on n'avait plus de jus, plus d'influx nerveux à l'arrivée. On est tous, je pense, tous les marins du Vendée Globe, ou en tout cas tous ceux qui y vont pour vraiment faire de la compétition, on a tous ce point commun d'être des gens qui aiment bien se dépasser, qui ont le goût de l'effort. Et bah, on se sent un peu vidé de tout ça à l'arrivée.
Et pour vous, cette récupération a été un peu particulière?
Oui, bah en plus, là, il se trouve que j'ai cumulé un début de grossesse qui est d'une grande joie avec récup du Vendée Globe et je ne suis pas sûre de le recommander. Ça ne s'est pas hyper bien passé, c'était compliqué.
C'est ça, ouais. Tout de suite enchaîné avec une nouvelle aventure alors que celle-ci se termine à peine.
Non, c'est une grande chance, hein. c'est super chouette, mais c'était un peu too much pour mon corps. Là, ça y est, je suis sortie du premier trimestre, mais c'était assez violent.
Vous êtes sans skipper à avoir sur les 10 éditions du Vendée Globe à avoir terminé au moins une fois un Vendée Globe. C'est pas énorme quand on y pense. C'est 5 fois moins que le nombre d'hommes et de femmes qui sont allés dans l'espace aujourd'hui. Selon vous, quel est le point commun de ces 100 marins qui ont pourtant un profil très différent et qui s'engagent dans cette aventure un peu folle, hein, vue de notre point de vue de terrien?
Je pense que la richesse du Vendée Globe, c'est justement qu'il y a une assez grande diversité. Alors bien sûr, on peut retrouver le marin qui a fait ça toute sa vie, qui est ingénieur, qui a grandi à Port-la-Forêt. Enfin voilà, il peut y avoir ce truc-là, mais il y a quand même tout un tas de profils différents. Donc c'est difficile de trouver un point commun. Je pense que le goût de l'incertitude, en fait, le goût du truc où qu'on contrôle pas vraiment, on met le doigt avant même de faire le Vendée Globe, en fait, de dire je vais faire le Vendée Globe, c'est déjà un mécanisme psychologique de se dire je me lance dans un truc qui me dépasse. Et ça, je pense, c'est un des points communs d'un paquet de concurrents.
Vous y êtes venu relativement sur le tard, hein, à la mer, à la compétition par rapport à d'autres. La première course en solitaire importante dans laquelle vous vous lancez, c'est une mini transat en 2017, donc traversée de l'Atlantique, hein, sur un bateau dont la coque fait
6,50 m. C'est ça qu'on dit mini, c'est pas une petite transatlantique, mais un petit bateau pour faire une transat.
Pour faire une grande transat. Voilà. Tout au long de la course, vous avez raconté à votre caméra ce que vous viviez au jour le jour. Écoutons quelques bribes de cette mini transat à bord de votre bateau.
On est dans le golfe de Gascogne. Jusque-là, je connais. Après, c'est l'inconnu. Sixième petit matin à bord de Pilepoil. Il n'y a pas beaucoup de vent. Et je ne sais pas s'il va au bon endroit, je ne sais pas où sont les autres. Je crois que c'est un peu l'apprentissage de ce que c'est la course au large. Ça fait 8 jours que je suis en mer. 8 jours. Et ça fait 3 jours que j'ai vu personne. Parler à personne, je sais pas où sont les gens. J'ai l'impression d'être dernière. D'ailleurs, je vais pas très vite là, je vais aller régler mes voiles. C'est joli. Dommage que ça aille pas un peu plus vite. Je me demande pourquoi, quand il n'y a pas beaucoup de vent, on a tendance à parler tout doucement comme ça. Est-ce que c'est parce qu'on a peur de déranger? On approche du Cap Vert. Putain, c'est chaud là. Il n'y a que même pas 10 km entre les deux îles, enfin, ça peut paraître pas beaucoup, mais en fait il y a vachement de vent qui accélère entre les deux. Je sais pas ce que je fais de mal, j'en ai ras-le-bol. J'avance pas quoi, j'avance putain de pas, je sais pas où ils sont les autres, mais moi je suis nulle quoi, je suis vraiment trop une bouse. Et là je viens de me prendre un grain et j'ai pas eu le vent et j'ai juste eu la pétole. Et de toute façon plus je me donne à fond, plus je suis nulle, alors franchement ça sert à rien quoi. L'inconnu, putain,
c'est quelque chose. Hein. C'est juste qu'on est perdu, quoi. Par moments, on se dit, putain, rien à foutre de la compétition, je suis là pour profiter et tout. Par d'autres moments, on se dit, je suis là que pour ça, parce que c'est une course et bah, le but, c'est quand même d'aller le plus vite possible, donc il faut être à fond et tant pis pour tout le reste.
Voilà quelques bribes de cette mini-transat que vous avez vécue intensément.
On mais désolé pour les gros mots.
En 2017, on vous pardonne, on les a diffusés, on est solidaires. Vous écoutiez ça avec un grand sourire, y compris les moments où on sent que vous craquez, que vous vous dites « je suis une bouse » ou vous vous mettez à pleurer. Vous avez un sourire tendre en entendant ça. Ça a l'air très fort, ce qu'on vit. C'est des montagnes russes émotionnelles, en tout cas pour vous, ces courses en mer.
Oui, on a tous une façon différente de vivre hein, les courses au large. C'est vrai que moi, je suis quelqu'un d'assez sensible et ça a été une des choses sur lesquelles j'ai pas mal travaillé. Ça, c'était ma première grande course, la Mini Transat. J'avais seulement 2 ans, même pas, de préparation avant cette première grande transatlantique. On se retrouve vraiment livré à nous-mêmes. Il n'y a pas de moyen de communication.
Ouais.
On est tout seul. J'avais un bagage technique relativement pauvre. J'avais la chance d'avoir eu des sponsors qui me permettaient de bien m'occuper de mon bateau. Mais voilà, je restais un marin qui n'avait pas beaucoup d'expérience. Et du coup, c'est beaucoup de nouveautés, beaucoup d'incertitudes. Et ça, c'est un vrai exercice psychologique qui m'a beaucoup coûté, que à la fois j'ai adoré et en même temps, je me suis rendu compte que je pouvais partir dans des travers émotionnels complexe. Donc c'est vraiment ça, les montagnes russes, parce que c'est aussi des énormes moments de joie inexplicables.
C'est ça, on sent que vous vivez plus fort, plus intensément. Et cette mini-transat, encore une fois, vous avez 27 ans, vous aviez commencé une vie francilienne à Paris, dans une start-up, vous aviez fait des études de commerce, et tout d'un coup, vous envoyez valdinguer tout ça, vous prenez la mer, à ce moment-là, vous êtes encore amateur hein, quand vous faites cette mini-transat, vous aviez quand même ce sponsor, mais il y a un déclic qui se passe lors de cette mini-transat. Vous vous rendez compte que vous êtes là où vous avez envie d'être?
Oui, je faisais cette transat comme beaucoup de monde l'a fait. C'est une transat qui est ouverte aux amateurs, avec certains, effectivement, qui commencent par ça pour devenir professionnels ensuite. Et moi, je pensais que ce serait une parenthèse de vie. Et j'ai vraiment été mordue. Ouais. C'est le cas de le dire. Surtout, c'est une course qui se court en 2 étapes. Et dans cette première étape, je pense que si on me lançait un baluchon avec de l'eau et de la nourriture, je ne me serais même pas arrêtée aux Canaries.
Ouais.
C'était de l'ordre de la transcendance. Enfin, c'était quelque chose qui me... J'étais même égoïste de bonheur. Je pensais même plus aux gens que j'aimais. J'étais juste dans mon truc, quoi.
Ouais.
Et ça, c'est un sentiment qui est... on se dit, c'est pas possible, je vais pas ne pas revivre ça.
Ouais. Et vous arrivez deuxième à cette mini-transat.
Oui, ça a été une belle réussite sportive, ce qui m'a beaucoup aidé par la suite.
Ouais. Ce qui vous a beaucoup aidé. Parce que, alors ça vous tombe presque dessus, alors que vous ne vous autorisiez pas encore à y rêver clairement. Mais quelques mois plus tard... en 2018, un sponsor réputé, qui très prestigieux sur la course, vous donne rendez-vous et vous fait une proposition qui vous fait un peu tomber de votre chaise.
Ouais, on m'appelle un matin. Enfin, c'est vraiment comme ça que ça se passe, où on me propose de participer. À l'époque, on est à l'automne 2018, de participer 2 ans plus tard au Vendée Globe 2020. Effectivement, à l'époque, j'avais même pas eu le temps d'en rêver. J'ai pas grandi dans une famille de marins. On suivait pas le Vendée Globe, la Route du Rhum, toutes ces courses très connues. Et j'avais pas eu le temps d'en rêver qu'on me le proposait sur un plateau, ce qui est un grand privilège. Hein. Y a beaucoup de marins qui vont en rêver pendant de longues années et jamais avoir l'occasion de le faire. Et
vous avez tout de suite accepté?
Ben non, j'ai mis quelques jours, j'ai eu besoin de me sentir libre en fait. Et se sentir libre, ça veut dire avoir la possibilité de dire non et ne pas le faire que parce qu'on nous le propose. Et je pense que c'est d'autant plus vrai pour une aventure comme le Vendée Globe, c'est que si on n'y va pas pour les bonnes raisons, c'est à peu près la recette parfaite pour se prendre les pieds dans le tapis. Donc je voulais que ça soit quelque chose qui vienne du fond de moi, même si j'avais beaucoup de peur. Et c'est la raison du titre de cet ouvrage, J'y vais mais j'ai peur. C'est une façon de dire, moi je ne suis pas quelqu'un qui est spécialement confiance en soi, même si ça peut paraître un peu improbable étant donné les projets dans lesquels je me lance, mais par contre j'ai cette capacité à me lancer dans quelque chose où je contrôle pas tout et je sais pas encore comment je vais me débrouiller. J'ai pas la recette, mais j'ai cette envie, et donc j'avais cette envie.
Dans votre bande dessinée J'y vais mais j'ai peur, vous illustrez très bien avec ces deux petits personnages, ces deux petits vous, celles qui vous poussent à y aller, à vous dépasser, à faire fi de toutes vos inquiétudes, et puis l'autre un peu trouillarde qui vous dit mais n'y va pas, qu'est-ce que tu vas faire dans cette galère, en quelque sorte. Bon là c'est la C'est celle qui avait de l'entrain qui a gagné et qui vous a donné envie de partir. À partir du moment où vous vous engagez, vous n'avez plus que 2 ans, même pas, hein, 18 mois pour vous entraîner à ce que l'on appelle l'Everest des mers, je le rappelais en introduction, qui a vu par le passé au cours de ces éditions des moments superbes, mais des drames aussi. Ouais. D'ailleurs, avant de dire oui, vous vous replongez un peu dans toute cette légende et vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui ont laissé leur vie. Donc vous avez quand même tout ça en vous. Comment on se prépare physiquement et psychologiquement à affronter une telle épreuve?
Bah oui, du coup, pour aller dans le concret, concrètement, en fait, il faut pouvoir se qualifier déjà pour un Vendée Globe. Ils acceptent, tout le monde d'une certaine façon peut prétendre y participer, mais il faut quand même répondre à un certain nombre d'exigences, donc une quantité de courses à faire. Donc c'est souvent des courses transatlantiques, en double ou en solitaire. Mmh. Et voilà, il fallait se préparer à tout ça. Donc c'est beaucoup de temps de navigation. Il faut découvrir ces grands bateaux de 18 mètres que sont les bateaux du Vendée Globe. Moi, à l'époque, j'étais accompagnée par un grand marin qui s'appelle Armel Lecléache. Et donc j'ai fait d'abord une grande transat en double avec lui, ensuite un convoyage en solitaire. Enfin, voilà, il y avait plein d'étapes. C'est beaucoup de boulot avec. On a des grandes équipes techniques aussi sur le Vendée Globe. C'est un sport technologique, un sport mécanique. Donc, on a plein d'experts dans plein de domaines qui s'occupent du bateau. Le bateau, il passe presque autant de temps à terre qu'en mer. Ouais. Parce qu'on bosse dessus. C'est des prototypes assez fragiles, assez poussés. Et donc, on essaye de mettre les mains en cambouis pour essayer de comprendre le plus possible tous les systèmes. Parce qu'après, on est livré à soi-même pour réussir à les réparer. Ouais. Et par contre, la préparation psychologique, c'est là un peu où le bas. À blesser sur mon premier Vendée, c'est que j'étais tellement concentrée sur ma survie, sur la partie technique, parce qu'encore une fois, j'avais que 18 mois pour être prête pour faire le tour du monde sur un gros bateau comme ça, que je ne me suis pas trop concentrée là-dessus. Ah. Et jusqu'à présent, j'avais jamais trop fait de prépa mentale et je m'en étais sortie. Et là, sur le Vendée, ça a été plus difficile parce que c'est énorme, quoi. C'est long et j'avais, voilà, je suis tombée dans certains écueils émotionnels.
On va avoir l'occasion d'en parler dans la suite de cette émission, puisqu'effectivement, le jour J arrive, octobre 2020. Vous vous apprêtez à prendre la mer pour votre premier Vendée Globe. Il y en aura un autre, 4 ans plus tard. Vous allez nous raconter comment vous avez vécu ces aventures sur votre bateau. La navigatrice Clarisse Kremer nous emmène bivouaquer sur les océans du monde cet après-midi sur France Inter.
I am sailing home again, across the sea. I am sailing stormy waters to be near you, to be free.
C'était Rod Stewart qui chantait Sailing sur France Inter dans le temps d'un bivouac.
Drôle d'atmosphère le long du chenal ce dimanche matin pour le départ à huis clos du Vendée Globe. Dans cet immeuble, au bout du quai, les habitants mettent l'ambiance tout de même.
Ça fait drôle. Il va falloir prendre des photos, ça sera mémorable parce que dans 20 ans, on parlera de ce Vendée Globe, certainement.
Pour les riverains qui n'habitent pas à proximité du chenal, il y a comme un sentiment de frustration.
Ça fait 4 ans qu'on attend ça et puis là, on habite ici, on ne peut pas venir voir. C'est ça qui est dur, quoi.
Malgré le contexte, il était inconcevable pour les parents de Clarisse Kremer de ne pas dire au revoir à leur fille.
Les gendarmes ont été gentils et compréhensifs, ils nous ont laissé passer le long du quai, donc ça c'est vraiment chouette pour nous. Vu l'aventure qu'elle va vivre, on avait quand même envie de ne pas regretter de ne pas avoir pu être là, donc on a tout fait pour et ça s'est bien passé, donc on est contents.
Extrait du JT France 3 Pays de la Loire avec ce départ du Vendée Globe 2020, pas comme les autres. Clarisse Kremer, on l'entendait, hein, votre mère, qui a quand même pu assister à votre départ au Sable d'Olonne, mais grâce à la gentillesse des gendarmes. Ça a été déstabilisant pour vous, ce départ? On était en plein confinement, c'est pour ça qu'il n'y avait personne, alors que d'habitude, les quais sont bondés, noirs de monde, pour acclamer les navigateurs et les navigatrices qui partent. Ça a été déstabilisant pour vous? Vous aviez certainement pas imaginé les choses comme ça.
En fait, on a tellement cru dans les mois avant que le départ allait peut-être ne pas être possible que ça ne m'a pas tant déstabilisé que ça. C'est plus dans la préparation parce qu'on a eu moins de courses possibles avant. Oui. Pas mal de courses qui ont été annulées. Et ça, pour moi, qui avait une préparation déjà assez courte, ça a été un vrai manque à gagner. Mais moi, je n'avais pas d'éléments de comparaison. Je n'étais pas comme ces marins qui disaient « Oh là là, c'est nul par rapport à d'habitude. Ouais, » ouais. Et je n'avais pas. Donc, j'étais juste déjà... puis, c'était tellement d'émotions déjà juste de vivre un départ devant des globes que finalement, d'enlever une partie des spectateurs, c'était peut-être pas plus mal pour moi. Et j'ai eu la chance de le vivre en 2024 avec tout le monde.
Et dès que vous franchissez la ligne de départ de ce premier Vendée Globe pour vous, vous êtes tout de suite dans la course ou ça vient progressivement, ça ?
Non, ça a été compliqué pour moi. J'avais du mal à la fois, j'avais du mal à réaliser que j'étais partie pour un tour du monde. C'est-à-dire que la prochaine fois qu'on revoit des gens, si tout va bien, c'est au même endroit, au Sable d'Olonne. Ça me paraissait complètement... Enfin voilà, le tour de la planète. Enfin, c'est la planète sur laquelle toute l'humanité existe. Enfin, c'est juste géographiquement, c'est complètement... énorme, c'est too much et c'est là où je dis que j'aurais dû faire plus de prépa mentale, c'est que rien qu'émotionnellement c'était déjà trop pour moi et j'avais pas, c'est quelque chose que j'ai beaucoup mieux fait la deuxième fois, c'est-à-dire de parce qu'en fait si on a des objectifs trop grands on est écrasé en fait par ces objectifs ouais. Et là c'est un peu ce que j'ai fait au début de mon premier Vendée Globe, c'est qu'à la fois j'arrivais pas à réaliser et en même temps j'essayais de réaliser et c'était trop pour mon petit cerveau. La deuxième fois j'ai décortiqué en tronçons, ouais. J'avais 14 tronçons et j'allais d'un tronçon à un autre quoi.
Ouais. Et ça c'est la bonne technique, même pour la préparation,
la
vous faites aussi
pas.
Ça,
voilà. Oui.
De ne ouais. pas regarder tout de suite le sommet
exactement.
Qui est vertigineux, ouais. Et d'aller de petites étapes en petites étapes. L'un des nerfs de la guerre, si ce n'est le nerf de la guerre, lors de ce grand tour du monde, c'est le sommeil. Autant sur les courses relativement courtes, de quelques jours, on peut s'autoriser à tenir un peu sur le stress et l'énergie et à dormir une heure par jour, et puis au bout de trois jours, on arrive. Là, vous saviez que vous étiez embarqué pour des semaines et des mois. Il faut gérer son sommeil. Comment on fait sur un bateau qui avance à toute allure, lorsqu'on est seul à bord, pour dormir ?
C'est hyper dur, parce que non seulement on est tout seul, ça avance à toute allure, mais en plus la météo est instable, et en plus on a des problèmes techniques tous les jours, et on ne sait pas quand est-ce que ça va arriver.
Ouais.
Donc c'est, c'est un vrai exercice pour lequel je n'étais pas spécialement douée. Il y a des gens comme ça qui savent s'endormir, même à terre, voilà, sur commande, et ça ne faisait pas partie de mes compétences premières, et donc j'avais vachement de mal. Je passais trop de temps à essayer de m'endormir, à me dire ah, il faut que je dorme, du coup parfois oublier de manger, en me disant il faut que je privilégie le sommeil, et j'ai appris par la suite que c'était une mauvaise idée. Je me suis fait suivre par un médecin du sommeil qui me disait bah non, il faut respecter tes cycles, même quand c'est le gros bazar parce que tu dors par tranche d'une demi-heure, il faut manger puis dormir, enfin voilà, plein de trucs et astuces qui font que maintenant j'y arrive mieux, mais à l'époque c'était un gros bazar.
Et le risque, si on ne dort pas, c'est les hallucinations. Vous avez connu ça, des hallucinations en mer, racontées ?
Oui, la fois où j'en ai connu une, la plus parlante, c'était sur une de mes premières courses en solitaire sur mon petit bateau de 6 mètres 50. Et j'ai carrément cru que quelqu'un m'appelait au secours dans l'eau. De là à sortir ma frontale, à chercher dans l'eau, jusqu'au moment où je me rends compte qu'en fait, c'était juste un bruit, il n'y avait pas beaucoup de vent et d'un câble qui frottait sur mon gréement. Et ce qui est rigolo, c'est que là, je me dis « Ah, bah ça y est, je suis en train d'halluciner, c'est ça une hallucination. » Donc je me rassis à la barre, je continue ma petite vie. Et là, ça recommence. C'est-à-dire que j'ai à nouveau l'impression que quelqu'un m'appelle au secours dans l'eau. Mmh. Et il a fallu encore 5 minutes de recherche avec ma frontale pour me rendre compte que c'était la même hallucination. Donc c'est vraiment comme un ordinateur qui bug et qui reproduit la même erreur de logiciel jusqu'à ce qu'on aille dormir et reposer tout ça.
L'impression aussi, alors peut-être un peu moins difficile et anxiogène, mais l'impression de naviguer sur des prairies d'Auvergne.
Oui, Vous avez eu ce sentiment aussi sur ce dernier Vendée Globe. Normalement, sur les bateaux du Vendée Globe, qui sont quand même des grosses machines un peu dangereuses, on peut vite faire des bêtises qui nous coûtent beaucoup. Ouais. On essaie de ne pas arriver dans ces états-là parce qu'il y a trop de choses à perdre. Mais malgré tout, on ne contrôle pas. Il peut se passer plein de choses qui font qu'on va dans des fatigues extrêmes. Et ça m'est arrivé sur ce deuxième Vendée d'avoir cette sensation. C'est vraiment une hallucination sensorielle. C'est-à-dire que bien sûr que je vois que je suis dans mon cockpit, bien sûr que je vois que c'est de la mer. Mmh. Mais moi, j'ai l'impression d'être dans une voiture qui avance sur des collines en Auvergne. Et donc j'ai dit ça, j'ai l'impression d'être dans les monts d'Auvergne. Enfin, et c'est complètement... c'est très difficile à expliquer, mais c'est de l'ordre du rêve éveillé.
Oui, c'est ça. Comme en fait, on ne rêve plus parce qu'on ne dort pas assez, le cerveau a besoin de nous faire rêver éveillé.
Apparemment, c'est ça, oui.
Alors, il faut quand même aussi tendre l'oreille et savoir écouter son bateau pour déceler les éventuels problèmes. Vous dites, c'est carrément un dialogue qui s'installe avec mon bateau quand je suis en mer.
Chaque bruit a une information. Ça, c'est quelque chose de primordial sur nos bateaux, d'un peu paradoxal, parce qu'en plus, c'est hyper bruyant. C'est vraiment des caisses de résonance en carbone. Je vis la plupart du temps avec des boules-caisses. Mais l'avantage des boules-caisses, c'est que ça réduit un peu tous les sons. Donc finalement, si on est attentif, on entend les mêmes sons. Et chaque nouveau bruit, c'est probablement une mauvaise nouvelle ou quelque chose qui a un souci. Ça peut être des petites choses ou des grosses choses. Donc on est vraiment à l'écoute permanente de notre bateau.
Et puis, quand il y a un gros problème, il faut savoir réparer en cas de casse, comme ici, lors de votre deuxième Vendée Globe.
En voulant régler mon foil, y a un truc qui a pété dans le réglage de foil, dans le support du vérin de foil. Ça fait chier. De toute façon, j'avais le bon moment pour un problème, puis le moment où ça a accéléré à 20 nœuds, bon, du coup, là, je suis au ralenti. Et on essaie de limiter la casse, de faire en sorte qu'il n'y ait pas de problème supplémentaire. Parfois, bricoler, c'est aussi simple que... Taper comme un porc sur un truc pour que ça rentre dedans. C'est censé tenir mon putefeuille en place. Aïe. Du coup, c'est pas vraiment réparé. Enfin, je peux me servir du foil. Je suis en sécurité, mais je peux plus régler mon foil. C'est pas idéal pour la perf. Et il y a des moments où je serai un peu bloquée. Donc, on va voir. Nouveau truc auquel s'adapter.
Nouveau truc auquel s'adapter. Il faut s'adapter en permanence, hein, malgré la fatigue, malgré tout le reste. On a l'impression que vous êtes devant une grande loterie des problèmes possibles et tous les jours, vous tirez une nouvelle boule.
Oui, c'est le royaume de l'imprévu.
Ouais.
Et ça, on a appris. Enfin, moi, j'ai appris et ça, j'en suis très fière. C'est un des trucs dont je suis le plus fière à aimer cette incertitude ou en tout cas à l'accepter beaucoup plus vite qu'avant.
Mais c'est-à-dire que vous êtes capable à faire face à tout. Vous pouvez tout réparer sur votre bateau ?
Très certainement pas, mais déjà on dit que le Vendée Globe c'est sans assistance, c'est pas tout à fait exact puisqu'on a une assistance technique au téléphone. Dès qu'on a un problème mécanique, on a le droit d'être aidé pour revenir à la situation initiale ou en tout cas essayer. On n'a pas le droit d'être aidé pour être plus performant ou à améliorer notre trajectoire météo, mais on a cette assistance technique. Donc on n'est pas tout à fait tout seul. Par contre, il faut savoir se servir de ses 10 doigts et de sa caisse à outils. Et puis il y a plein de moments d'urgence où c'est le bon sens marin qui prime.
Oui. Et puis des moments d'urgence où on n'a pas forcément le temps de passer un coup de fil ou de consulter. Alors, vous avez une sorte de mode d'emploi, hein, vous appelez ça les ABAC, mode d'emploi du bateau.
Oui.
Mais comme ce sont des prototypes, finalement...
ce que j'appelle les ABAC, c'est plus du côté de la perf, en fait. Ouais. Ça, c'est des réglages de performance.
Ah, okay.
Mais après, mode d'emploi technique, en fait, c'est dans notre tête et surtout dans la tête de nos techniciens. Mais par exemple, j'ai eu un blackout électronique, donc c'est-à-dire plus d'électricité, un blackout électrique au milieu du poteau noir sur mon dernier Vendée Globe. Là, on nous rappelle bien qu'on est juste sur une coque de noix au milieu de nulle part. Il n'y a pas ce côté assistance hotline pour nous aider.
Et oui, là, il faut compter que sur vous-même. Vous avez eu d'autres pépin sérieux à un moment. C'était sur la fin du premier Vendée Globe. Tout d'un coup, vous vous réveillez, vous voyez que de l'eau partout a envahi le bateau. Qu'est-ce qui s'était passé?
C'était un problème complètement idiot. On a pour la faire court, des réservoirs d'eau qui nous servent de performance pour équilibrer le bateau. Et là, il y a eu un problème quand j'ai voulu remplir un réservoir. À la place de remplir le réservoir, j'ai rempli mon bateau.
Ah oui.
Et donc, je me suis retrouvée avec quand même une certaine quantité d'eau dans mon bateau. Et là, j'ai vraiment débloqué. C'est-à-dire que c'est comme si pendant toute la durée du Vendée Globe, c'était vraiment vers la fin, j'avais occulté le fait qu'entre l'immensité de l'océan et moi, il n'y avait qu'une petite coque de carbone de quelques centimètres. Mmh. Là, tout d'un coup, l'océan s'invitait dans mon bateau. Et je n'ai pas aimé du tout.
Ah ben oui, je comprends. Mais comment on gère justement ce risque, ce danger? Évidemment, il faut être vigilant. Il ne faut pas que ça vous paralyse. Donc, on l'a en tête, on l'oublie. Comment vous le tenez à distance pendant toute la course?
C'est un sport d'expérience. Donc déjà, je pense que le danger, on le gère de mieux en mieux au fur et à mesure des expériences. Il faut encore ne pas avoir eu de traumatisme, parce qu'il y en a qui ont ça aussi, c'est-à-dire qu'ils ont connu des expériences difficiles et du coup, après, ils sont un peu traumatisés par certaines choses. Mais le danger, je pense, c'est comme dans la vie de tous les jours. On sait qu'on est tous mortels, on sait qu'on peut, voilà, que tout peut nous arriver, mais on n'y pense pas toute la journée, sinon on ne mettrait pas un pas devant l'autre. Bah là, c'est la même chose, un peu plus fort, un peu plus prégnant. C'est-à-dire que oui, on a des angoisses. Oui, parfois, ça nous arrive d'être un peu ébranlé par le côté vertigineux de l'affaire. Mais globalement, on est concentré sur la somme des tâches à faire tous les jours.
Et puis, des fois, c'est aussi ce qui arrive à vos, je dis concurrents, mais on sent que c'est plus que des concurrents. Hein. C'est aussi vos compagnons de route, finalement, les autres participants au Vendée Globe. Lors de votre premier Vendée Globe en 2020, l'un des skippers, Kevin Escoffier, fait naufrage en quelques minutes. Hein. Il a à peine le temps de... Il se retrouve dans son radeau sur la mer. Et là, vous êtes tous informés. Comment vous vivez ça, vous, sur votre bateau, quand vous savez que l'un de vos compagnons de route est en difficulté?
Bah, déjà, il y a l'angoisse, parce qu'on s'inquiète pour sa vie. On sait tous que c'est difficile de retrouver quelqu'un sur un radeau de survie. On ne connaît pas exactement les circonstances dans lesquelles il est. On est dans les mers du Sud, il fait froid. Donc déjà, il y a l'angoisse juste de l'urgence vitale. Et en plus de ça, de façon plus personnelle, plus intime, il y a le rappel à l'ordre, en fait. Parce qu'on est tous des marins, des compétiteurs, des régatiers, et on joue. D'une certaine façon, on fait un jeu à l'échelle planétaire. On essaye de régler nos bateaux et tout ça. Et tout d'un coup, on se rappelle que, ah ben en fait, c'est peut-être notre partie de jeu, là, elle est un peu insolente, en fait. Elle est un peu... elle oublie les codes de la vie sauvage et de la nature extrême dans laquelle on est. Et donc, moi, je l'ai vécu comme à titre perso. Une fois que l'événement était passé, qu'on savait que Kevin était sauvé, comme un rappel à l'ordre.
Vous dites, je suis à la fois fasciné par le voyage et incapable de comprendre ce qui m'arrive. Bref, je ne maîtrise rien, je subis tout. Ne serait-ce pas là la définition de l'aventure?
Ben, c'est ma définition, en tout cas, ou comment je l'ai vécu à l'époque. C'est vraiment ce côté, la nature. Alors, on est dans un sport mécanique, donc c'est un peu plus que la nature, mais en tout cas, la vie, la nature, je ne sais pas trop comment on peut appeler ça, l'immensité, le sublime, décide à notre place, et nous, on fait ce qu'on peut, petit être vivant qui essaye d'avancer vers son objectif, et ça, c'est l'aventure. Ouais.
Alors, il n'y a évidemment pas que des coups du sort, hein, lors de vos deux Vendée Globes. Vous avez vécu aussi de véritables moments de grâce. Nous allons en parler dans la suite de ce temps d'un bivouac à travers les océans avec vous, Clarisse Kremer. Très bel après-midi à l'écoute de France Inter.
Jamais je n'oublierai la couleur de ton île, le bleu vert du lagon immobile, les routes des vallées. Dans les matins d'avril, l'air est doux quand on est en exil. Jamais je n'oublierai l'immensité sauvage, le rose sur les murs du village, les toits de tôle claire qui sourient aux nuages. L'air est doux quand il est d'un autre âge, et la lenteur règne sur les corps et les cœurs. La lenteur. Pousse encore en dentelle, où le vent sur la peau jette un voile de sel. L'air est doux quand la mer est si belle. Jamais je n'oublierai le jardin des limons, les ourites qui sèchent au balcon, et les fleurs en papier sur les nappes en seins nus sous mon cuir quelques livres. Loin du fracas du monde et de sa marche à suivre. L'air est fou, l'air est saoul, l'air est ivre. Je n'aurai pas le temps d'inverser ma mémoire, de laisser mes armures, mes armoires. Ma place de parking, mon café, mon cafard. L'air est fou, l'oxygène se fait rare. De ton île, le bleu vert du lagon, immobile, les routes délavées dans les matins d'avril, l'air est doux quand on est en exil. La lenteur.
C'était Jeanne Chéral qui chantait Rodrigue sur France Inter.
Sur France Inter, un bivouac. Daniel Fievé.
Rare moment d'un albatros qui bat des ailes avec des dauphins. Il y a des albatros partout et des dauphins. Regardez-moi ceci, c'est pas trop beau. Regardez tous ces albatros. Ah, je sais plus où donner de la tête. Ils sont noirs et blancs, ils sont trop beaux. Ah bah y'en a carrément qui sont posés, un albatros posé, regardez ça. Je pourrais y passer ma journée là, là je suis congelée parce que je suis en t-shirt. Et ouais, avec toi, le petit albatros. Youhou.
Notre invitée, la navigatrice Clarisse Kremer, enthousiaste d'avoir de la compagnie lors de son dernier Vendée Globe, celui de 2024. Il y a, lors de ces compétitions où ça va très vite, il y a encore de la place pour ces moments de plaisir simple. En vous entendant, on a l'impression d'une gamine qui s'éclate. Hein. Il y a encore la place pour ces moments-là, pendant les Vendée
Globe. Heureusement, oui. Et il faut les travailler, je pense, parce qu'on est tellement concentrés sur la régate, sur les problèmes techniques. Puis nos bateaux, malheureusement, maintenant, sont très fermés. Donc la contemplation devient un effort, il faut se mettre dedans, il faut admirer la mer et du coup ces moments, bah là c'était une journée absolument extraordinaire au passage du Cap Horn, ça fait X temps que j'ai vu aucun être humain, même pas vu le soleil, et là il fait beau, c'est calme et il y a une nuée d'animaux qui m'accompagnent et c'est des moments de grâce, des moments de joie hyper intenses.
Des moments de grâce comme celui-ci, vous en aviez aussi vécu dans le premier Vendée Globe, que vous racontez dans votre bande dessinée « J'y vais, mais j'ai peur », et vous parlez de ciel étoilé, où vous entrez dans une sorte d'extase, en quelque sorte. C'est vraiment un bien-être absolu.
Je ne sais pas si c'est la fatigue, la solitude, si c'est un mélange de tout ça, juste l'impression d'être à sa place. Enfin, c'est un mélange d'ingrédients qui font qu'on a vraiment l'impression d'être sous la meilleure drogue du monde. Et, alors, je suis pas très bien placée pour parler de drogue, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est hors du temps, que j'ai du mal à reproduire à terre, et qui est génial et qui fait qu'on y retourne. Parce que
avec un échange de regards intense avec un albatros, vous avez vraiment l'impression de faire une rencontre forte quand vous voyez cet albatros. Vous passez aussi un moment à côté d'une île déserte. Et on sent que ça allume votre imaginaire avec l'idée qu'elle ressemble à Jurassic Park, cette île, et que finalement, ce serait sympa d'aller y faire un tour, d'arrêter la compétition et d'aller mettre le pied à terre.
Oui, c'est vrai que parfois on se dit, c'est un peu idiot, je fais le tour du monde et puis je m'arrête nulle part, je vois rien, enfin je contemple certaines terres de loin, mais la dimension géographique, la dimension découverte, elle est vraiment, elle existe, même si c'est une régate, on est là-dedans, et moi ça fait partie d'une de mes plus grandes motivations, c'est la fascination pour ce moyen de locomotion qui est un bateau à voile.
Vous avez l'impression de vivre des sensations qu'ont ressenti les explorateurs d'hier, les grands explorateurs partis en mer, eux aussi explorer des terres lointaines.
Oui, j'ai du mal à me comparer à eux, parce que j'arrive toujours pas à comprendre comment on faisait pour partir sans instruments, sans savoir ou même de cartographie, en découvrant des nouvelles terres. C'est un lâcher-prise, là, c'est encore un autre niveau par rapport à ce qu'on fait nous. Nous, on est quand même très connectés encore, enfin, c'est un autre exercice.
Très connectés, mais à un moment, vous semblez, vous, des déconnecter. Vous décrivez quelque chose qui s'apparente presque à l'ivresse des profondeurs, un bonheur d'être en mer et l'envie finalement de ne plus jamais revenir à terre, de continuer indéfiniment le voyage.
Alors heureusement, ça n'arrive pas très longtemps, oui. Mais c'est un peu ce qu'on... Moi j'ai fait pas mal d'athlétisme, on peut comparer ça au flow en course à pied ou dans d'autres sports, en fait, cette espèce d'état où pour rien au monde on échangerait notre place et on a envie que ça dure éternellement. Et donc en bateau, ce qui est assez extraordinaire, c'est que ça peut durer sur plusieurs heures, plusieurs jours, cet état d'ivresse. Et
dans ces moments-là, votre famille ne vous manque pas du tout,
vos
proches ?
Et c'est ça où je dis, je parle de bonheur égoïste, parce qu'effectivement, pour être parfaitement joyeux, il ne faut pas avoir ce manque, il ne faut pas avoir cette mélancolie qu'on peut avoir, qui peut être une mélancolie un peu teintée de joie, hein, mais il faut que tout ça, ça disparaisse. Et ça, ça m'est arrivé parfois en mer, mais jamais de façon... continue, enfin jamais de façon éternelle.
Vous êtes retombé les pieds sur terre
en fait. C'est aussi une joie qu'on a probablement parce qu'on sait que ça a une fin. Ouais. Et ça, je pense que c'est important de le rappeler.
Et puis, il y a aussi les moments de cafard, hein, les coups de mou, notamment au moment de Noël, quand vous avez votre famille, vos proches au téléphone, et puis ça finit par raccrocher. Mm. Et là, vous êtes seul en mer et vous vous demandez un peu ce que vous faites là.
Oui, un des écueils, c'est de se projeter dans comment pourrait être la vie à terre. En fait, si on n'est pas concentré sur notre bateau, sur notre petite vie, notre petite planète qui est notre bateau, on ouvre des portes de fragilité, de souffrance, et donc c'est ce qui s'est passé à chaque Noël, les deux Noëls de mes deux Vendée Globes, où j'imaginais, je réfléchissais à ce que j'étais en train de louper, plutôt que de penser à tout ce que j'avais. Mmh. Et à chaque fois, ça m'a mis dans un petit spleen pas très agréable et qui sort un peu de la course.
Mmh. Et qu'est-ce que vous ressentez quand vous passez dans les points mythiques, comme alors le point Nemo, on peut peut-être rappeler ce que c'est que le point Nemo.
Oui, le point sur la planète Terre, le point en mer le plus éloigné de toute Terre.
Ouais, c'est-à-dire que là, vraiment, on est le plus loin de tout, tout endroit où l'on puisse être en mer. Quand on passe le point Nemo, ça fait quelque chose ou finalement ça n'est...
Ça faisait partie de mes tronçons, de mon fameux décortiquage.
Ah oui. Une des étapes à franchir.
Exactement. En fait, c'est... je parlais tout à l'heure de rappel à l'ordre, ça fait partie de ces trucs-là où on se dit... Waouh, là si j'ai un pépin, en plus moi j'ai passé le point Nemo, j'étais dans une de mes plus grosses tempêtes du Pacifique, à un moment donné où j'avais plus d'ordinateur de bord, donc il faut imaginer que j'étais sur un iPad avec un point qui clignotait sur une carte toute pourrie, enfin vraiment c'était un peu particulier, et là c'est voilà, un moment de plus où on est confronté à l'immensité de ce qu'on est en train d'essayer de faire, mais on a ce tort ou cette qualité de pas trop réfléchir à la situation malgré tout, à rester un peu concret, un peu terre à terre, pas trop se projeter dans le côté infini de la terre, de la mer, de la profondeur des océans.
Il faut pas trop gamberger. Quand vous passez, alors après le point Nemo, peu après, il y a le Cap Horn. Enfin, je dis peu après, en temps de mer, ça prend un peu de temps quand même. Le Cap Horn, c'est un autre point mythique. Tous les navigateurs d'hier ont eu du mal, parfois ont dû reculer, ne pas franchir. Ce sont les océans les plus tempétueux de la planète. Vous appréhendiez, quand on passe le Cap Horn, il y a une sorte de fierté. Comment on vit ça ?
Sur mon premier Vendée, ça a été assez particulier, parce que j'attendais tellement ce Cap Horn. Effectivement, vous dites, c'est un mythe. On a même ce truc qu'on dit entre marins d'être capornier, capornière. On dit que le marin qui a passé le Cap Horn peut pisser au vent. Enfin voilà, vraiment pour être dans la légende, c'est ça. On peut mettre une boucle d'oreille. Enfin voilà, il y a un truc, tout un historique. Et moi, j'avais cru que c'était la ligne d'arrivée. C'était tellement, les mers du Sud terminait, je rentrais en Atlantique, je rentrais à la maison dans ma tête. Et en fait, il restait un mois de mer avec un bateau plus fatigué, un marin plus fatigué. Donc ça a été compliqué. La deuxième fois, ça a été très différent. Il y a effectivement eu cette rencontre avec les albatros, les dauphins, et je savais à quoi m'attendre.
Je vous propose d'écouter une autre grande navigatrice, Isabelle Autissier, au sujet du choix de partir en mer en solitaire.
Culturellement, en France, on est un pays de l'exploit solitaire. Enfin, ceux qui sont au pinacle, ce sont des solitaires. C'est Tabarly, c'est Moitessier, c'est des gens qui naviguent tout seuls. Quand on va chez les anglo-saxons, c'est le contraire, quoi. Et c'est des gens du team. Donc on n'a pas du tout les mêmes réflexes culturels. Après, je suis assez autonome, j'aime bien faire mes plans, j'aime pas qu'on me dise ce que j'ai à faire, j'aime bien m'investir dans les choses à fond, et le solitaire, évidemment, permet ça. Il y a aussi, et c'est une bonne nouvelle, le fait que je suis une femme. Comme je suis une femme, c'est difficile de trouver une place dans un équipage. C'est beaucoup plus facile de partir en me disant, moi je pars toute seule et puis je fais ce que j'ai envie de faire et puis on verra après. D'ailleurs, toutes les grandes navigatrices que vous connaissez aujourd'hui, ce sont toutes des solitaires, c'est pas un hasard. Et puis après, il y a cette envie de l'expérience du solitaire, comme vous pourriez aller décider de, je sais pas, d'aller gravir une montagne toute seule, et de, qui est une expérience d'immersion, qui est une expérience forcément intérieure, qui est une expérience qui est quand même une expérience qui vous recentre sur l'être humain sur la Terre. Voilà. Parce qu'à un moment donné, vous êtes toute seule, soit avec la mer à 360, la nuit avec les étoiles et le sentiment du cosmos, et puis que voilà, vous, tout d'un coup, vous dites que vous êtes un petit humain et que tout ça est bien étrange et à la fois passionnant. Mais je crois que ça, ça se ressent plus en solitaire, parce qu'en solitaire, on porte 100% de l'humanité avec soi.
Isabelle Autissier, interviewée dans LSD, la série documentaire sur France Culture en 2020. Clarisse Kremer, il y a beaucoup de choses dans ce qu'elle dit. Qu'est-ce que ça vous inspire ?
Je ne le dirais pas mieux. Ouais. C'est tout à fait ça. Je rajouterais presque une dimension de retraite spirituelle du solitaire. Je suis très d'accord avec, encore aujourd'hui, avec le côté femme. Moi, c'est aussi pour ça que j'ai été attirée par le solitaire. C'est que bah, là, je prends mon bateau, je ne demande rien à personne. Si je suis bonne, je suis bonne. Si je suis nulle, je suis nulle. Et c'est pas, il n'y a pas de dimension. On perd un peu notre sexe, en fait, en mer, en solitaire. On est un marin parmi d'autres, notre genre est un élément de différenciation parmi d'autres, et ça, c'est plus vrai qu'en équipage.
Ouais, et donc, c'est encore vrai aujourd'hui qu'il est difficile de partir en équipage, il est plus difficile
c'est
de trouver sa place.
C'est de moins en moins vrai, heureusement, les choses évoluent. Il y a des quotas maintenant sur certaines courses qui, aujourd'hui, comme beaucoup de quotas, ont pu être mal interprétés au début ou mal vus, et qui finalement, maintenant, sont rentrés dans les mœurs. C'est de moins en moins vrai. Mais bon, on reste assez peu nombreux, ça évolue doucement. On n'est pas différent du reste de la société.
À l'arrivée de votre premier Vendée Globe, Clarisse Kremer, ça vous a presque un peu agacé que les journalistes, les intervieweurs soulignent que vous étiez la première femme à faire ce temps-là. Vous êtes arrivée 12e de la compétition, pour vous c'était votre classement, vous étiez 12e, et ce première femme à faire ce temps-là, vous trouviez qu'il était trop.
C'était presque une forme de gêne par rapport aux 11 concurrents qui étaient arrivés avant moi. Il y avait beaucoup de choses que j'avais l'impression d'avoir mal faites sur mon Vendée Globe, aussi parce que j'avais pas eu une grande préparation psychologique et une préparation assez courte, je manquais d'expérience. Et c'était, je pense, une forme d'humilité aussi par rapport aux 11 hommes. Et en fait, cette mise en valeur en disait plus long sur le fait qu'il y avait eu peu de femmes qui avaient fait le Vendée Globe, sur, sur l'histoire de cette course et de la voile et de la compétition en général, plus que sur ma propre performance. Et c'est pour ça que c'était une forme, à la fois on comprend, il y a un côté bienveillant, il y a un côté médiatique qui est logique. Et en même temps, j'étais un peu gênée parce que ça me dépassait complètement.
Il y a eu deux Vendée Globe, les deux derniers, vous y avez participé, vous les avez bouclés de plus en plus vite. Rapidement, très rapidement, il y en aura un troisième pour
c'est
vous.
C'est une très bonne question. Vous avez pu l'entendre avec ma façon de raconter tout ça. C'est quelque chose que je chéris vraiment. C'est quelque chose que j'adore. Et en même temps, c'est une drôle de vie. Et notamment avec la vie de famille, j'attends un deuxième enfant. Donc, j'ai pas encore répondu à cette question. Il y a une partie de moi qui a très envie. On est accro à ces formes d'aventure. Et une partie de moi qui essaye de prendre un peu le temps de poser les choses.
Merci, Clarisse Kremer. Je rappelle le titre de la bande dessinée qui retrace votre parcours du début jusqu'à votre premier Vendée Globe. J'y vais, mais j'ai peur, avec vos textes et la co-scénariste Maud Bénézit, qui fait également les dessins. Un grand merci à vous d'être passé par notre bivouac.
Beaucoup.
Restez avec nous dans un instant, nous avons rendez-vous avec Éric Birloez pour une nouvelle Odyssée savoureuse.
Depois de buscar na noite a tua paz despedaçada, depois de atirar no mundo a tua mágoa amanhecida, vai buscar meu ombro amigo, meu abraço, teu abrigo. Vai gritar meu nome à toa num quarto vazio. Depois de ganhar o meu amor por quase a vida inteira, depois de jogar no lixo uma paixão tão verdadeira, já faz tempo eu fui embora, você gritava eu duvido, e agora ouve a minha praga sussurrando em seu ouvido. Você vai se arrepender de me tratar assim. Vai rodar noites em claro na s'enfuir. Você vai se arrepender de me tratar assim. E a cada copo de bebida se lembrar de mim. Sussurrando em seu ouvido, você vai se arrepender de me tratar assim. Vai rodar noites em claro na busca sem fim.
C'était Tim Bernardes qui chantait Praga sur France Inter et merci à Djoubaka qui signe notre programmation musicale.
Sens-moi ça, ça sent bon, ça sent le jardin, ça sent les quatre saisons, ça sent la terre.
Bonjour Éric Birloise.
Bonjour Daniel.
Sociologue de l'alimentation que nous retrouvons avec bonheur tous les jeudis. Vous nous emmenez sur la route d'aliments qui ont voyagé avant d'arriver sur nos tables. Et aujourd'hui, c'est sur la route de l'aubergine que vous nous emmenez.
Mais oui, sur ce légume vraiment emblématique de l'été et de la cuisine méditerranéenne et qui est, bah, tout le monde le sait, l'un des ingrédients incontournables de la ratatouille.
Et alors, où est-elle née cette aubergine? On pense au bassin méditerranéen.
Eh ben non, en fait, hein, notre aubergine, elle a pour ancêtre sauvage une plante qui poussait en Asie du Sud-Est et en Asie du Sud. Alors, la domestication de l'aubergine s'est déroulée en deux étapes. Les premières cultures ont été réalisées du côté de la Thaïlande, de la Malaisie, de l'Indonésie. Et puis, ces variétés cultivées ont été diffusées vers des régions plus septentrionales, aux confins de l'Inde, de la Birmanie et dans le sud de la Chine. Et c'est là qu'elles ont encore été améliorées il y a au moins 3000 ans. Et il fallait les améliorer parce que les fruits de l'aubergine sauvage étaient ronds, de couleur verte et surtout très petits. Oui. Et en plus très amers, avec des tiges couvertes d'épines. Alors merci aux paysans asiatiques d'autrefois qui les ont sélectionnés patiemment pour les rendre plus attractives.
D'accord, mais alors l'aubergine a quand même bien fini par arriver dans le bassin méditerranéen.
Oui, mais tardivement, finalement. Hein, les Grecs et les Romains de l'Antiquité ne la connaissaient pas. D'accord. Et ce sont les Arabes qui, après l'avoir découverte en Perse, ont implanté la culture de l'aubergine dans le bassin méditerranéen, surtout en Andalousie, où on sait qu'elle est présente dès le Xe siècle. Mais en revanche, le reste de l'Europe ne découvrira l'aubergine qu'à partir du XVe siècle.
Et alors, quand elle arrive chez nous, elle ne suscite pas tout de suite un grand enthousiasme?
Non, pas vraiment. Les médecins s'en méfient parce que l'aubergine appartient à la même famille botanique, celle des Solanacées, que certaines plantes européennes qu'on qualifiait d'herbes à sorcières parce qu'elles provoquaient des hallucinations et même la mort. C'est la mandragore, le datura, la jusquiame, la belladone. Et d'ailleurs, la première appellation scientifique de l'aubergine témoigne de ses craintes. Son nom latin était Mala insana, qu'on peut traduire par pomme malsaine ou pomme qui rend fou. D'ailleurs, en italien, aubergine se dit toujours melanzana. Au XVIe siècle, un botaniste bavarois affirmait à propos de cette Mala insana, son nom seul doit effrayer ceux qui ont le souci de leur santé.
Mais l'image de l'aubergine va quand même finir par s'améliorer un peu.
Oui. Au début du XVIIe siècle, un texte la crédite de vertu aphrodisiaque, assurant qu'on peut la consommer, je cite, « pour se rendre plus vaillant avec les femmes ». Bon, ça coûte rien d'essayer. Et donc c'est à cette même époque, début du XVIIe siècle, que l'aubergine commence, enfin, à être cultivée en Provence. Mais il faudra encore attendre 1750 pour que le mot « aubergine » apparaisse dans la langue française. Il est issu du catalan albergina, qui vient de l'arabe albadinjan, lui-même issu d'un mot persan, emprunté au sanskrit. Vous m'avez suivi, Daniel ?
Oui, un peu, à peu près.
Bon, on le voit, hein, l'origine des mots atteste parfois du très long voyage de certaines plantes.
Le mot apparaît dans le dictionnaire, mais pas encore le légume sur les marchés parisiens, si je comprends bien.
Non, ce sera seulement dans les années 1820. Et progressivement, on va voir se multiplier les variétés cultivées. Certaines, par exemple, produisent des fruits qui ont la taille, la forme et la couleur des œufs. Raison pour laquelle on les a qualifiés de plantes aux œufs. Mmh. Et vous remarquerez qu'en anglais, aubergine se dit eggplant, et... en allemand Eierfrucht, le fruit œuf.
Ouais. Vous disiez que l'aubergine est une solanacée, hein, donc comme la tomate et la pomme de terre qui sont, elles, originaire des Amériques. Je retiens tout ce que vous nous avez raconté dans les chroniques précédentes.
Mais oui, très bien. Et comme le tabac aussi. D'ailleurs, l'aubergine contient de la nicotine. Mais bon, je vous rassure, Daniel, en quantité très faible, il faudrait que vous mangiez 10 kilos d'aubergine pour ingérer la teneur en nicotine d'une seule cigarette.
Bon, très bien. Donc, on ne va pas en faire des patchs. Merci, Éric Birloez. Je rappelle que vous avez publié Le pain, une croustillante histoire aux éditions Quae, et puis aussi Histoire de l'alimentation des Français aux éditions Ouest France. Un grand merci à vous et à la semaine prochaine, Éric.
À bientôt, Daniel.
Le temps d'un bivouac replie sa tente. À demain pour de nouvelles aventures.